Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un beau moment ensemble, puisqu'à chaque vendredi, je trouve un invité qui vous plaît. Vous me le dites souvent, c'est des gens qui sont souvent bien sympathiques, à qui on a jasé ou qu'on jase pour une première fois. Dans le cas de ce soir, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà jasé dans une autre vie radio. Son nom, c'est David Bernard. Il est conférencier. Il est chez lui, confortablement assis. Salut, David!
Salut, Yann.
Très content de te jaser. David Bernard, pour les gens qui entendent David Bernard pour une première fois puis qui se disent « Mais semble sa belle voix me dit quelque chose », c'est le gars, c'est le top modèle qu'on voyait dans le banquier, c'est ça?
Ah, la question sans pièce. C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, j'ai plusieurs, on va dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais oui, on m'a connu à l'époque dans le monde du show business comme le porteur de la valise numéro 26. Ensuite de ça, comme chroniqueur à sucré salé.
Exact.
Ce qu'on attend pour être heureux à District V. J'ai également animé l'émission Direction la mer qu'on retrouve sur les ondes d'évasion. Mais ça, c'est vraiment une petite partie de
ta carrière.
De ma vie. Sauf que c'est celle qu'on voit le plus parce qu'elle est publique. T'sais.
C'est ça. Est-ce que ça a été dur pour toi de te sortir un peu du top modèle du banquier qui tenait une valise? Parce que toi, t'es plus que ça. T'sais, je veux dire, ben, j'ai rien contre les top modèles, mais je veux dire, t'es conférencier aujourd'hui, mais t'es auteur, t'aides les gens à se sentir mieux. Ça a-tu été dur de te défaire de cette image-là?
Bon, là, on va commencer par se calmer le pompon avec le top modèle. En passant, pour les hommes, top modèle, c'est plus de 6 pieds, puis moi, je mesure 5 et 9. Fait que j'ai jamais été considéré officiellement comme un top modèle.
Je sais pas si ça va te rassurer, mais quand j'ai dit à ma grand-mère, je recevais David Bernard, elle a failli perdre connaissance tellement qu'elle trouve beau.
Mais tu sais, le banquier à l'époque, c'était tellement. C'était gros. Hein,
ouais, oui,
ça m'a propulsé dans la stratosphère du show business quand même assez fort. Là. Il y avait vite des 2,5, 3 millions de codes d'écoute à chaque semaine. T'sais.
Tu t'attendais-tu à ça, ces codes d'écoute-là, puis l'impact que ça pouvait avoir?
Vraiment pas, mais moi, j'aime beaucoup dire que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Puis dans mon cas, ça faisait déjà plusieurs années que, tu sais, mon background, en fait, pour répondre à cette question-là, c'était en psycho. J'ai étudié la psychologie, puis ensuite de ça, je me suis recyclé dans une branche très spécifique qui s'appelle la PNL, qui est un acronyme pour programmation neurolinguistique.
Ouais.
Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai écrit mon premier livre, j'ai commencé à donner des conférences, je faisais du coaching, j'avais un cabinet. Mais je passais aussi des auditions de temps à autre pour le fun. J'aimais ça comme mannequin. Puis j'ai passé une audition pour cette émission-là qui allait être la version québécoise d'un show à succès qui s'appelait Deal or No Deal, que j'avais jamais connu. Je connaissais pas ça. Et du jour au lendemain, ben, je me suis retrouvé sur le stage avec Julie Snyder puis 25 autres personnes. Puis là, ben, ma vie, elle a été littéralement transformée. Puis ça m'a ouvert une grande porte.
Ouais.
Mais moi, je me considère comme un gars, tu sais, très stratégique, méthodique dans la vie. Puis c'est une des affaires que j'enseigne dans un autre de mes livres qui s'appelle « Créer un impact ». Alors, moi, j'ai vraiment utilisé cette opportunité-là pour me placer les pieds dans le monde du show business, mais toujours avec, ça peut sembler un peu curieux comme ça, mais toujours avec la même intention en tête, c'était d'augmenter ma visibilité pour toucher plus de monde à travers des conférences puis à travers mes livres, parce qu'à travers mes 20 années de métier, j'ai écrit 6 livres en tout et partout, puis j'ai rendu à quoi, là, presque 1900 conférences de données dans en 20 ans.
Exact. En effet, un peu partout à travers le monde. Mais, tu sais, je veux revenir à l'épisode du banquier. Bon, tu me dis que tu étais stratégique, tu t'es placé là, mais tu t'attendais pas à ce que ça lève à 2-3 millions de téléspectateurs. Tu sais, à plus petite échelle, moi, j'aime bien mon anonymat. Tu sais, je fais de la radio, j'aime communiquer avec les gens, j'aime en savoir plus. Je suis un gars hyper curieux. Je suis très empathique aussi quand les auditeurs m'écrivent. Puis, hey, Yann, j'ai tel problème. Je peux-tu venir t'en jaser si ça peut aider? Why not, coconut? Tu viens en onde, puis on a vengeance, puis mais j'aime mon anonymat, tu sais. Je sais dans certains secteurs de Québec où je peux aller, je sais à quel endroit je vais me faire reconnaître. Exemple, au Salon de l'Auto la semaine prochaine, là, je le sais que je vais être obligé de faire face aux auditeurs qui m'écoutent puis qui me trouvent bien sympathique, puis je vais devoir leur jaser. Ça me fait plaisir, mais je suis quelqu'un, moi, de timide dans la vie. Toi, du jour au lendemain, tu arrives au banquier, les gens connaissaient ta face parce que tu faisais des magazines. C'est quel impact que ça l'a eu, tu sais, que les gens puissent te reconnaître un peu partout? Ça a-tu été dramatique pour toi ou tu te disais, ben, je suis rendu là aujourd'hui?
Ben, sur le coup, je l'ai vraiment pas vu venir. Fait que c'était carrément un choc. C'est comme, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te retrouves dans les revues à potin à toutes les semaines, puis là, dans le séjour, puis dans l'écho vedette, puis la semaine, tout ça, puis dans le TV hebdo, petite babe. Puis j'étais vraiment pas préparé à ça. Ça faisait pas partie de mon plan professionnel à aucun niveau. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça a été que du positif pour moi. Okay. Il faut dire que j'étais pas considéré comme une, en guillemets, une vedette, dans le sens que je portais une valise dans un game show, là, on s'entend. Sauf que les gens étaient très curieux, voulant en savoir plus. Puis moi, j'ai utilisé ça. Fait que c'était le fun. Puis moi, personnellement, me faire reconnaître, j'adore ça. C'est le fun, c'est de l'amour gratuit que le monde te donne. Ils viennent te voir. Puis tu sais, encore aujourd'hui, depuis 2 ans, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes médias sociaux pour les faire lever. Puis TikTok, Instagram, Facebook, ça lève vraiment fort. On est rendu, le combiné tout ça ensemble, 215 000 followers. Puis maintenant, je me fais reconnaître plus avec ça. J'ai dit, hey, je t'ai écouté sur TikTok aujourd'hui. J'ai vu tes vidéos Instagram. Puis j'adore ça. Ça me fait tellement plaisir. Je sens que je suis proche du monde, puis je connecte avec eux autres. Puis la vérité, comme tout le monde, j'ai des journées off. Mais quand j'ai des journées off que je veux pas parler à personne, ben, je reste chez nous.
Parce que on a toutes des journées où on a de l'air un peu plus magané. T'sais. Samedi, un dimanche matin, on s'en va au resto. Puis là, toi, du jour au lendemain, ton image est connue de tout le monde, en fait, qui écoutait TVA à l'époque. Mm-hmm. Puis là, ben, tu te rends compte que quand tu bois ta gorgée de café, il y a comme 5-6 personnes qui disent ça, je connais la face. C'est-tu lui? Non, c'est pas lui, c'est-tu lui? Ça modifie un parcours de vie, mettons. Là tu peux plus être sous en public, là, parce que ça va être dans le lundi.
En tout cas, si tu l'es, t'as besoin de bien le cacher.
Oui, exact.
Analyser.
J'ai vu que t'avais été boxeur olympique.
Oui, effectivement. J'ai eu une carrière avant tout ça, de 8 ans, comme pugiliste, comme boxeur. J'ai fait en tout et partout dans ma carrière 33 combats, une belle fiche à part de ça, 30 victoires, 3 défaites. Je me suis rendu jusqu'au championnat québécois. J'ai été médaillé d'or sur 3 années consécutives à ce qu'on appelle la compétition québécoise les gants dorés.
Ouais.
Je me débrouillais très bien. J'étais pas particulièrement puissant, mais j'étais rapide. J'étais rapide, j'étais très stratège technique, et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu pendant un bon petit moment, jusqu'à ce que je me retrouve en début vingtaine, mi-vingtaine, puis là, je commençais à être un petit peu... J'étais tanné de manger des tapes à la gueule. J'avais l'impression que la vie, c'était plus que ça, puis j'avais envie de faire autre chose de ma vie.
L'entraînement de boxe aussi, on me dit que c'est un des meilleurs entraînements qu'on peut avoir, mais on est rigoureux quand on fait des entraînements de boxe, puis c'est extrêmement difficile de ce que je comprends, mais au moins, ça t'a donné une discipline.
Ah, moi, c'est clairement une des affaires qui a mis le plus la base dans ma vie pour ce qui est de la discipline, de la rigueur, du courage aussi, parce que je vais te dire une affaire, Yann, tu sais probablement que tu peux t'identifier à ça à d'autres moments de ta vie, là, mais tu rentres dans un ring, puis le gars en face de toi, tout ce qu'il veut, c'est t'arracher la tête, puis pas personne n'est à sauver. Là. Il y a un arbitre qui est là, mais il fait rien, tu sais. Fait que ça prend beaucoup de courage pour faire ça, puis c'est aussi, tu apprends avec les années que, ça j'en parle beaucoup en conférence, que la chance... c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. T'sais. Fait que l'opportunité, dans ce cas-ci, ça peut être un combat, mais la préparation, c'est 100% entre tes mains. T'sais. Fait que moi, je faisais en sorte que ce soit extrêmement difficile au gym pour que ce soit plus facile quand j'allais embarquer dans le ring, puis ça m'a toujours servi énormément. Puis dans la vie, par la suite, c'est une philosophie que j'ai intégrée.
Ouais, puis surmonter ses peurs aussi, tu le dis, je peux faire un plus petit parallèle. Moi, quand j'ai commencé à jouer au football au secondaire, ils nous avaient fait faire des tests pour savoir dans quoi on était bon, tu sais. Puis moi, ils se sont aperçus que j'étais bon dans rien, mais je pouvais courir vite. Donc, ils ont dit, toi, tu vas être retourneur de beauté. Puis moi, pour être très honnête avec toi, je me suis inscrit au foot parce que tous mes amis voulaient s'inscrire au foot. Puis ils m'ont dit, toi, Yann, tu vas être retourneur de beauté. J'ai dit, OK, en quoi ça consiste, mais en retourner le botté, ben c'est pas compliqué. Il dit, toi, ton but, c'est d'aller le plus loin possible vers le nord, puis les gens qui sont en face de toi, eux autres, leur but, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur toi. C'est un peu, là. Moi, j'ai le ballon, puis tout le monde s'en vient sur moi à pleine pine. C'est à peu près ça. Mais vu que tu cours vite, cours en angle, des fois, tu devrais t'en sortir. Écoute, juste, mon premier retour de botté, là, il a fallu que je me parle là, parce que mes jambes, ils voulaient plus rien savoir. Là. Mes jambes voulaient sortir du terrain.
Oui, je comprends ça très, très bien.
Puis dans un ring, ben là, tu commençais avec des 3 rounds, des 4 rounds?
C'était 3 rounds initialement, puis des fois, ça montait à 5 rounds en fonction de l'événement puis de la compétition.
Tu peux pas te sauver. Il y a du monde qui sont là pour te voir boxer.
Une fois que tu as franchi les câbles, que tu es rendu à l'intérieur, que ce soit un octogone, un ring, peu importe, une fois que tu es rendu à l'intérieur, il n'y a pas de retour en arrière. Là. Puis, tu vas aller jusqu'au bout.
Puis tu sais, les boxeurs, vous avez à vous contrôler aussi dans le chaos. C'est un peu comme les gars au UFC. T'sais. Vous recevez des coups sur la tête, puis vous devez quand même continuer à adopter la stratégie que vous aviez planifiée dès le départ. Mais tu te rends compte que la stratégie n'est pas. Ça se peut qu'elle soit. Qu'il y ait quelques failles après 3-4 mornifs sur le nez, de rester discipliné puis de continuer à faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire de faire la stratégie que tu t'es entendu au départ avec ton entraîneur. Ça doit être extrêmement compliqué. Il faut être rigoureux aussi, David.
Ben, je peux te dire une chose, Yann. Je vais citer le grand, le seul et l'unique Mike Tyson, un des plus grands boxeurs de l'histoire, tant qu'à moi. Puis Mike Tyson disait « Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse taper sa gueule. » Moi, je peux te dire une chose. C'est pas mal comme ça dans un ring, tout comme dans la vie. Tu peux avoir un plan, mais à un moment donné, tu reçois des coups. C'est fort possible que tu aies à t'ajuster puis à pivoter. Puis d'ailleurs, c'est une des affaires que j'enseigne dans mon dernier livre que j'ai sorti. C'est de l'importance de, oui, d'avoir un plan, d'avoir un alignement, de savoir où tu t'en vas, mais d'être capable de faire preuve de flexibilité, de résilience, d'être capable de pivoter. T'sais. Parfois, c'est, moi j'appelle ça les 3 P de la sagesse. Là, c'est, parfois, c'est de persévérer. Tu continues exactement avec le même plan, puis tu avances. Parfois, il faut que tu pivotes. Ça veut dire qu'il faut que tu changes. Puis quand tu t'acharnes, c'est là où ça devient de plus en plus difficile puis compliqué. Puis la fine nuance entre persévérer puis pivoter, ben c'est est-ce qu'il y a réellement de l'espoir que c'est possible que ça perce ou tu t'entêtes, tu t'acharnes, mais ça fait pas de sens puis c'est ridicule. Puis sinon, ben le troisième, ben c'est de planter le drapeau. Tu sais, tu plantes le drapeau, tu dis OK, on déclare, on n'a pas perdu la guerre, mais on a perdu cette bataille-là, puis on va réajuster nos flûtes autrement. Tu sais.
David Bernard, tu es étudiant en psychologie. Est-ce que tu as toujours lu sur la psychologie? Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu t'es toujours intéressé? Je sais que tu as décidé que tu allais faire un voyage en Afrique du Nord à l'âge de 19 ans. C'est assez jeune là, pour s'en aller en Afrique du Nord. J'imagine que tes parents ont perdu connaissance quand tu leur as annoncé ça. Mais est-ce que tu étais un gars qui, au niveau psychologique, là, tu faisais régulièrement des lectures et tout ça?
Oui, ça a toujours été ma grande passion. Quand j'étais jeune, mon père avait une bibliothèque de livres de croissance personnelle et de psychologie. Fait que moi, j'ai commencé. Mes premières lectures, c'était du Jean-Marc Chaput, Vivre, c'est vendre, puis du Eckhart Tolle, puis des affaires qui sont, tu sais, parfois bien flyées, puis parfois bien terre à terre, mais toujours sur la communication, l'être humain, le développement personnel. Ça a toujours été une de mes grandes, grandes passions dans la vie, puis c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire ce que je fais aujourd'hui.
Ouais. Chaput, tu l'as-tu rencontré personnellement?
Ben oui, à plusieurs reprises.
Quel homme, hein? On voulait tous l'avoir comme grand-père, je pense, une fois que tu rencontres...
J'ai partagé la scène avec lui il y a quelques années de ça à la Place Belle, à Laval, dans un gros événement. Il devait avoir 8000 personnes, c'était bien spécial, parce que c'était quand même mon héros de jeunesse, moi, tu sais.
Ben, sûrement.
D'être à ses côtés, puis d'avoir la chance de partager la scène avec lui, là, c'était... Je pense que c'était peut-être un an ou deux avant son décès. C'était bien spécial.
Moi, j'ai passé 3 heures en entrevue avec, à jaser placoté. Puis quand j'ai eu mon premier Yannick Sacrifice, là, c'était comme...
Mais c'est un pilier, tu sais, c'est un pilier. C'est un pionnier au Québec du mouvement du développement personnel puis de la croissance. C'était le seul et l'unique à l'époque. Là.
C'est ça. Mais quand, t'sais, ce que tu te souviens de lui, c'est quoi qui est le plus marquant de Jean-Marc Chaput?
Un homme très humain. Empreint d'une grande humanité. Ouais. Puis c'est une chose que je reconnais chez justement les êtres humains que je considère comme spéciaux, c'est qu'ils portent une humanité. Fait que l'humanité, ça amène bien d'autres traits de caractère, puis bien d'autres belles qualités comme justement l'empathie, l'ouverture, la joie, la sagesse. T'sais, c'était un homme qui avait énormément de vécu, mais quand tu étais en sa présence... Tu sentais qu'il voulait réellement faire connaissance avec toi, qu'il voulait t'écouter, il avait beaucoup à dire, mais il y avait de la place pour un échange. C'était pas un monologue dans l'ego, c'était réellement un dialogue entre humains. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça magnifique de lui.
Exact. J'ai l'impression, puis sans nécessairement me souvenir de toutes les 3 heures que j'ai passées avec lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a souffert dans la vie puis qui a appris des fois de cette souffrance-là. Puis il était en affaires, c'est quelqu'un qui faisait énormément d'argent, puis tout d'un coup, pouf, la business va moins bien, il est sur le point de faire faillite. Tu sais, c'était quelqu'un qui était foncièrement humain. Ouais, je pense que c'est ça que je retiens de lui, moi aussi. La résilience, c'est un gars qui était très résilient, puis qui était aussi curieux de l'autre qui était en face de lui. Mais cela dit, bon, toi, David Bernard, tu t'es toujours intéressé à la psychologie. Ton père, dans sa bibliothèque, avait des livres sur la psychologie. T'as décidé que tu t'en allais, toi, en Afrique du Nord. Pour quelle raison, à 19 ans? T'étais recherché au Québec. Tu dis, je vais me pousser pendant quelques jours. Toutes mes ex me recherchent.
En fait, pour une raison extrêmement simple qui est souvent un dénominateur commun pour bien des humains pour se remettre en question puis ouais. partir à la quête de réponses, je cherchais ma réponse à moi sur une question toute simple mais tellement profonde et importante qui est « C'est quoi le bonheur pour moi? » J'avais à ce moment-là 19 ans puis j'avais aucune idée de ce que j'avais à faire dans la vie si j'étais pas un boxeur. Puis j'étais pas heureux. Je me sentais pas heureux. Je me sentais pas épanoui. Je me sentais pas bien. La vie, pour moi, c'était un peu comme dans le ring. C'était un peu comme un match de boxe. Puis j'avais l'impression d'avoir à toujours me battre pour gagner, me battre pour faire ma place, me battre pour juste avoir mon morceau de pain. Puis j'étais tanné de ça. Je voulais donner plus de sens à ma vie. Alors, j'ai vendu le peu que je possédais. Je me suis acheté un sac à dos. Et je suis parti en voyage avec un billet ouvert à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Puis c'est en Afrique que là, j'ai vécu mes plus grandes aventures, en fait, une grande aventure, une grande expérience qui m'a profondément bouleversé, qui m'a transformé. Puis je suis revenu ensuite de ça au Québec où j'étais le même, mais en même temps très différent aussi. C'est comme certaines personnes, tu sais, là, quand tu vis quelque chose, puis tu peux dire après tout est pareil, mais tout a changé. Bien, c'était un peu ça qui s'était passé pour moi.
OK. Puis l'Afrique du Nord, t'es resté là pendant combien de temps?
À peu près pas loin de 2 mois et demi, 3 mois, mais là où ça a été pour moi très révélateur, c'est que je suis arrivé là-bas puis je voulais aller vivre une expérience dans le désert du Sahara. Mais je voulais pas vivre une expérience touristique où tu prends une photo avec un chameau puis tu te dis « Regarde, je suis allé dans le désert avec une gang de touristes. » Je voulais vraiment vivre quelque chose de profond, à la limite de mystique. Okay. Alors, je m'étais rendu dans un tout petit village en bordure du Sahara qui s'appelait Mohammed. Et là-bas, mon plan, c'était d'attendre qu'une famille de nomades berbères vienne se ravitailler en eau et en nourriture, puis là, leur demander si je pouvais pas partir avec eux autres wow. dans le désert pour faire un pèlerinage, là, carrément un pèlerinage spirituel, là, observer ma vie, y réfléchir et trouver la réponse à cette fameuse question-là. C'est quoi le bonheur pour moi? Puis comme de fait, des fois, hein, quand tu fais un pas en avant, la vie en fait deux pour toi, sauf que c'est toi qu'il faut faire, qu'il fasse le premier pas. Alors, je me suis rendu là-bas et j'ai attendu quelques jours. Et après quelques jours, une caravane est débarquée dans le petit village pour se ravitailler en eau et en nourriture. Et là, j'ai parlé directement avec le maître chamelier, un homme qui se nommait Mokhtar. Et Mokhtar a gracieusement accepté de m'amener avec lui et sa caravane dans le désert. Puis là, on est parti pendant quelques semaines. Oh. Et là, c'est une longue histoire que je raconte dans mon premier livre, d'ailleurs, « Ralentir pour réussir », que j'ai écrit il y a presque 18 ans de tout ça, mais on s'est retrouvé pris en plein milieu du désert parce que le plan, c'était qu'on devait se rendre à une oasis. C'était presque une semaine se rendre, une semaine à l'oasis, puis une semaine pour revenir. Et en plein milieu de notre périple, juste avant qu'on arrive à l'oasis, on s'est retrouvé pris dans une tempête de sable. Et très, très, très violente, qui est arrivée très rapidement. Et pour moi, c'était, là, écoute, là, tu sais, quand tu dis complètement sorti de ta zone de confort, là, c'était quelque chose. Et dans cette tempête-là, ben, on a été immobilisé pendant plusieurs jours. Je me suis retrouvé à faire bivouac un peu avec ces nomades-là berbères, puis à parler de la vie, puis aussi à être je suis tombé très, très malade. Je me suis énormément déshydraté, puis pour la première fois de ma vie, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais j'ai contemplé l'idée que j'allais peut-être mourir, que c'était peut-être la fin pour moi à 20 ans. Là, t'sais. Fait que je te dis une chose, quand tu arrives quand tu es dans ta jeunesse, tu te sens un peu invincible. T'sais. En vieillissant, à un moment donné, tu prends plus conscience de la mort, puis encore là, c'est très tabou. Nous autres, en Amérique du Nord, on parle pas ben de tout ça. T'sais. Alors, quand tu te retrouves dans ta vingtaine à envisager l'idée que tu vas peut-être mourir, je te garantis que tu vis tout un choc. Là, c'est un reality check de... Tu sais, n'importe qui nous écoute en ce moment, là, de se poser ces questions-là, là, c'est d'une puissance extraordinaire de... J'ai-tu tout fait ce que je voulais à date de ma vie? Est-ce que j'ai gaspillé mon potentiel? Est-ce que j'ai des conflits en ce moment dans ma vie parce que je refuse de pardonner et j'ai de la rancœur que si je pars, là, c'est ça que je lègue à ces personnes-là puis moi, je l'emporte avec moi. Là, est-ce que mon potentiel, je l'ai utilisé ou pas? Est-ce que j'ai sommeillé, dormi dans ma vie ou j'ai été davantage éveillé? Alors, toutes ces questions-là m'habitaient, pour ne pas dire me hantaient, parce que là, je commençais à faire un peu l'inventaire de ma vie, puis je réalisais que ma vie n'était pas en ordre, t'sais, que j'avais fui bien des affaires, que j'avais évité bien des affaires, que je l'avais joué petit sur bien des affaires. Puis, je voudrais pas dire que je vivais de la culpabilité, mais j'étais vraiment dans cette urgence de vivre, de « mon Dieu, si je m'en sors, Je vais faire les choses différemment à mon retour. Puis à ce moment-là, c'est drôle, hein, comme on est des êtres humains. Pour la plupart, là, tu sais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde de la psychologie. Quand ça va bien, on célèbre, on fait la fête, on est content. Puis quand ça va pas bien, là, on ralentit, on réfléchit, on analyse, puis des fois, on prie aussi. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai essayé de négocier avec Dieu. J'ai dit, sors-moi de là, puis je vais stepper up my game en anglais. Je vais m'améliorer, je vais transformer les choses. Et comme de fait, c'est ça qui est arrivé. La tempête s'est résorbée après presque 3 jours et demi. Et on s'est retrouvé à aller à l'Oasis. Et là, pour moi, ma vie, elle venait de changer. C'était comme, elle avait pris un différent tournant. Ça a été le premier événement très, très significatif de ma vie. Je veux reprendre les choses en main et surtout, je veux me responsabiliser. Je ne souhaitais plus être dans cette posture de la victime, victime de la vie, victime des difficultés, victime de l'adversité, victime de mon histoire, parce que des raisons que j'ai pas dit plus tôt, mais je me suis lancé dans le monde de la boxe parce que je souffrais énormément d'intimidation quand j'étais plus jeune. J'étais un petit garçon très timide, très, très, très introverti. Je me faisais tabasser, je me suis fait casser un bras à l'école par trois boulis, trois intimidateurs, fendre le front. C'était épouvantable à quel point j'étais un petit minou qui se faisait bardasser, tu sais. Et ça, c'est comme si je portais cette énergie-là de la victime en dedans de moi. Alors, à 19 ans, ben en fait, à 20 ans, dans le désert du Sahara, j'ai pris la décision que j'allais me responsabiliser, mais à un niveau stellaire. J'allais prendre responsabilité pour tout dans ma vie et transformer tout ce qui était en mon pouvoir de transformer à travers l'intention, à travers l'effort, à travers l'engagement, la discipline. Ce que j'avais appris finalement dans la boxe, ben j'ai commencé à l'appliquer concrètement dans ma vie au quotidien. Puis c'est là où les choses ont commencé à, ben là, ça m'a amené dans une autre étape de ma vie, mais on peut dire que ça a changé bien des affaires, mettons.
Ouais. Je vais te poser des questions, ça peut paraître bizarre, mais tu vas comprendre le lien après. Vas-y. Est-ce que t'as pardonné ces boulis-là? Est-ce qu'à la limite, tu les as remerciés d'être passés dans ta vie? Parce que...
Complètement et entièrement.
Oui, hein?
C'est important de le faire. Ouais. Ah ben, c'est une des choses que j'enseigne, ça, c'est ces petites affaires-là, ou ces grandes affaires-là, si tu les gardes en dedans de toi, la colère, la rancœur, ça te bouffe de l'intérieur. Ça te tue pas. T'en meurs pas, mais ça te tue à petit feu. Puis il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de ça encore aujourd'hui en 2024, mais toutes ces émotions-là qui sont réprimées à l'intérieur de toi, ben ça crée ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. On appelle ça de la somatisation. Puis la somatisation, c'est tu développes des mots parce que tu n'es pas capable de dire des mots. Fait que tu développes des mots M-A-U-X parce que tu n'es pas capable d'exprimer des mots M-O-T-S. T'sais, c'est comme si tu développes des maladies parce que tu as du mal à dire quelque chose. Alors, en mon sens, c'est quelque chose qui est extrêmement important de verbaliser, de communiquer. Puis même si tu ne le verbalises pas aux autres, avec toi-même, à un moment donné, te libérer de ça,
ouais.
Pardonner, passer à une autre étape de ta vie, puis d'essayer de comprendre. Parce que souvent, la raison pour laquelle ça bloque, c'est qu'on voit ça comme dans une posture de victime. Pourquoi ça m'est arrivé? C'est injuste, je ne mérite pas ça, je suis une bonne personne. Puis c'est correct, je sais que c'est quelqu'un qui a vécu des grands traumatismes ou de grands sévismes peut m'écouter et dire, ben voyons donc, là, attends une minute, là, moi, là, il m'est arrivé telle chose, je le comprends. Mais vient un moment où quand tu arrives à l'âge adulte, c'est essentiel d'aller dans une démarche, en mon sens, où tu vas te libérer de ça pour pouvoir exprimer le meilleur en toi puis le plein potentiel en toi. Puis si tu es dans la rancœur, la colère, la contraction, la fermeture, c'est impossible. Tu sais, j'aime beaucoup répéter en conférence que c'est brutal, là, mais on va le ramener dans le micro, là, juste dans le cercle familial. Nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. Même si on veut pas, même si on donne le meilleur de nous-mêmes, comme nos parents nous ont donné probablement le meilleur d'eux-mêmes, ils nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. C'est un cercle vicieux dans lequel on peut pas faire grand-chose. C'est le cercle de la vie. Par contre, ceci dit, oui, c'est vrai. Nos parents nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi le pire. Ils nous ont donné de la lumière, leur force, leur qualité, mais aussi leur croyance limitante, leur peur, leur contraction. Fait qu'on est blessé déjà de notre très jeune âge, puis on apprend, puis on évolue là-dedans, mais avec nos blessures. Sauf que ce qui arrive, c'est quand on arrive à l'âge de la conscience, ça n'arrive pas à la même vitesse pour chaque être humain, mais quand on arrive à l'âge de la conscience, bien, c'est important de reconnaître que ta blessure ou tes blessures, c'est pas de ta faute, mais ta guérison, ça, c'est ta responsabilité. Alors, à partir du moment où tu réalises que c'est ta responsabilité de te guérir, ben là, tu t'outilles. Fait que là, tu t'outilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lire des livres, un peu comme ceux que j'ai écrits, ou tu vas suivre des formations, ou tu vas aller voir un thérapeute, tu vas aller voir un coach, tu vas aller voir un psy, tu vas aller voir quelqu'un quelqu'un qui va t'aider à voir ce que tu n'es pas capable de voir par toi-même. Puis à partir du moment où tu changes ta posture de victime à humain responsable, tu te réappropries ton pouvoir et cette réappropriation-là, ça va te permettre de transmuter bien des affaires, de guérir bien des affaires, de te libérer de bien des affaires. Puis là, tranquillement, tu vas réaliser que ta vie est en train de pivoter, que tu es plus léger, que tu n'as pas des lunettes roses, mais tu vois les choses peut-être moins teintées avec de la noirceur ou du gris parce que tu t'es libéré du gris qui est à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est une démarche. Tu sais, ça ne se fait pas en 2 secondes. Puis n'importe qui prône que ça peut se faire en 2 secondes, ben, ça peut se faire aussi. Je l'ai déjà vu pour certaines personnes qui sont rendues là, mais ça, c'est un peu... C'est l'effet de... C'est un peu comme l'eau qui boue, tu sais, l'eau elle bouille à 100 degrés, mais des fois tu rencontres des gens qui sont à 70, d'autres à 80, d'autres à 90, puis d'autres à 98, puis à un moment donné, pouf, ils entendent une affaire, ou ils perçoivent une chose, ou ils lisent un livre, ou ils écoutent une entrevue à la radio, puis là, pouf, ça décloche quelque chose en dedans d'eux autres, puis là, ben ils entament une transformation, ils passent à la prochaine étape.
Ouais, puis c'est la raison pour laquelle j'aime ça recevoir des gens comme toi, David Bernard. Puis je te posais la question, toi, à 20 ans, t'as vécu un épisode où tu pensais que t'allais même pas t'en sortir, puis tu dis, t'as commencé à faire un bilan de ta vie. Tu m'as parlé aussi des bullies du secondaire. Tu sais, avec les auditeurs, on a une belle proximité quand on travaille dans les médias, que ce soit à la télé ou la radio, les gens ont l'impression qu'on est leur ami, qu'on peut être leur confident, puis qu'on les jugera pas nécessairement, puis tu sais, à la limite, c'est vrai, parce qu'on les connaît pas, tu sais. Mais ce que tu me racontes, que tu sais, le bilan que toi t'as fait à 20 ans, puis qui a changé ta vie, il y a des gens qui ont 40, 50, 60 ans, puis qui ont pas encore fait ce bilan-là, puis sont un peu tristes de ce qui s'est passé au secondaire, avec des gens qui les ont intimidés, ou encore la raison pour laquelle ils sont comme ça aujourd'hui à 40, 50 ou 60 ans, c'est en raison de leurs parents qui ont pas fait assez ci, qui ont pas fait assez ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que le déclic arrive, tu sais, puis les gens qui sont dans nos voitures présentement, des gars qui nous écoutent en majorité, tu sais, qui se disent, regarde, moi, je me retrouve un peu en David, je me retrouve un peu en ce que Marceau dit, c'est-à-dire, attends un peu, là, je vais-tu accepter d'être une victime encore pour 10 ans, là, sacrifice, j'ai 40 ans, ce serait le fun que je décide aujourd'hui d'arrêter tout ça. Bien, quand on jase avec des gars comme toi qui ont passé par là, ça, tu sais, puis t'as bien réussi par la suite, ça peut les inspirer de leur côté, là.
Et comment? Puis tu sais, la bonne nouvelle avec ça, là, Yann, c'est que il n'est jamais trop tard. J'ai vu des gens vivre des pardons, des guérisons, des lâcher-prise dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Même dans les 70, j'ai vu des gens vivre des shifts dans leur vie parce qu'ils ont compris quelque chose. Parce que, tu sais, mettons là, ça, c'est la base de mon dernier livre là, qui s'appelle « Aime-toi et la vie suivra », parce que on parle de mon passé, mais tu sais, même plus récemment, là, parce que tu chemines, mais en même temps, tu es dans des cycles. Tu sais, j'aime beaucoup comparer ça au voyage de la chenille. La chenille, elle commence, est à terre, est dans la poussière, elle mange les affaires qui traînent à terre, est toujours menacée par les prédateurs, puis à un moment donné, elle se dit « Ma vie, c'est de la merde, je suis écœuré, il faut que je change ça. » Elle monte dans un arbre, puis là, elle s'enferme dans un cocon, dans une chrysalide. Tu sais, là, comme... Quand tu as besoin, à un moment donné, tu sens que tu as besoin de te retrouver, de te faire une bulle, de t'isoler pour comprendre des affaires, changer des affaires dans ta vie. Puis on l'a tous cet appel-là. Il y en a qui sont dans le déni, qui l'évitent, mais il y en a d'autres qui rentrent dedans. Fait que la chenille, elle rentre dans son cocon, sa chrysalide, puis là, se retrouve un moment où elle est en transformation, elle se nourrit d'elle-même, de sa souffrance, de ses blessures, de son passé. Elle utilise tout ça comme des blocs, des matériaux de construction pour se transformer en un papillon. Puis à un moment donné, bien, le papillon... Il perce la chrysalide, le cocon, puis là, ça devient un beau pollinisateur. C'est le même être, mais qui s'est transformé. Puis nous autres, les êtres humains, on est pareil. On vit des cycles qui sont très similaires, où des fois, on a l'impression d'être une chenille, des fois, on a l'impression d'être dans un cocon, puis des fois, on a l'impression qu'on est un papillon aussi. Mais la différence avec la chenille, c'est que elle, c'est juste une fois, puis nous autres, c'est en perpétuité. Tu sais, c'est comme, là, on parle pas mal dans ma vingtaine, mais à la fin de ma trentaine, j'ai pogné une méchante débarque. Là. Ah oui, tu sais, quand tu dis fesser le mur à 100 000 à l'heure, puis c'est un peu en partie l'histoire de dans ce livre-là, Aime-toi et la vie suivra, parce que c'est un livre qui est comme divisé en 3 parties où il y a des parties que c'est mon histoire que je raconte, il y a d'autres parties c'est le coach conférencier qui partage des stratégies, puis il y a d'autres parties que c'est vraiment des exercices, des questions pour amener la personne dans un cheminement puis un cycle de transformation. Mais tu sais, moi, 37 ans, je suis de l'extérieur, tu vois un gars qui a du succès à télé, qui est sur quatre émissions de télé en même temps, qui a écrit des livres, qui est conférencier, qui va se promener en Europe, grosse maison, gros char, mais de l'intérieur, je suis en train de faner. Je suis dans une relation où je m'éteins, puis je décide de me séparer. Ma famille, elle éclate. Je suis tout seul, me réveille chez nous, dans ma maison, je suis complètement dépressif. Je suis grosse dépendance, consommateur de cannabis à tous les jours du matin au soir. Je suis pété tout le temps. Je suis à 2 mois de faire faillite. Ma santé va vraiment pas bien, ni au niveau mental, ni au niveau physique. Et pourtant, de l'extérieur, j'ai l'air de Midas, que je touche, tout ce que je touche, ça se transforme en or. Mais de l'intérieur, je suis en train de mourir. J'ai des idées noires, tu sais. Puis ça, ça a été un peu, à l'époque, le début de ma future vie, de ma nouvelle vie où j'ai commencé une transformation. Puis tu sais, ce que j'explique justement dans ce livre-là qui vient de sortir, Aime-toi et la vie suivra, c'est que, à mon sens, les cycles de transformation, c'est souvent en 3 temps, comme la chenille, le cocon, le papillon. Ben, pour la même, c'est nous autres la même affaire, les humains. Puis la première étape, c'est d'accueillir, c'est de comprendre où est-ce que t'es. La plupart du monde, ils veulent pas accueillir, ils sont en résistance, ils veulent pas ça, ils se braquent, ils se battent contre la vie. Non, mais attends une minute, là. Si tu veux que ça change, d'abord, là, faut que tu reconnaisses où t'es. C'est comme un GPS. Pour que ça fonctionne, faut savoir où tu veux aller, oui, mais faut savoir où t'es. Fait que reconnaître où t'es en ce moment, ta vie est dans quel état, qu'est-ce qui se passe, puis toutes les sphères, tu sais, ça peut être financier, émotionnel, intellectuel, spirituel, familial, la santé. Tu fais un recap de, OK, ma vie, elle a l'air de quoi? Puis à partir du moment où tu le reconnais, tu dis, bon, OK, je suis rendu là, puis tu le fais avec authenticité, avec vérité, puis avec un désir sincère de passer à la prochaine étape. Mais là, progressivement, tu t'en vas vers la seconde étape, qui est l'acceptation. Ben, OK, c'est là que je suis rendu. Fait que là, t'es plus dans le pourquoi ça m'arrive à moi, je suis donc bien pas chanceux dans la posture de la victime, mais là, tu commences à te responsabiliser et à reconnaître que ta vie, c'est ta création de toute pièce. Même si tu penses que c'est les aléas de la vie, puis c'est des chances ou des malchances ou des hasards, une très, très grande partie importante de ta vie, c'est ta création, de par tes actions, de par tes paroles, de par tes pensées. Fait qu'à partir du moment où ça, tu t'en deviens conscient, ça te donne énormément de torque puis énormément de pouvoir pour commencer à transformer les choses. Une étape à la fois, un pas à la fois, puis surtout de mettre de la lumière dans ta vie, c'est-à-dire de la compréhension. Plutôt que de dire pourquoi ça m'arrive à moi, d'y aller avec une question qui te donne beaucoup plus de puissance, comme par exemple, qu'est-ce que la vie attend de m'enseigner avec ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi la vie me punit? Non, la vie ne te punit pas. La vie est en train de t'enseigner quelque chose, de te montrer un chemin, puis c'est à toi de voir. Tu sais, moi, j'aime bien dire que la vie est toujours en communication avec nous autres. La question, c'est pas si la vie te parle pour te guider, te montrer le chemin, t'aligner. La question, c'est est-ce que tu portes attention? Es-tu attentif? Est-ce que tu regardes autour de toi? Pas la plupart, mais beaucoup de gens, c'est des zombies. Ils se posent pas de questions. Ils font leur métro, boulot, dodo, ils font rien d'autre que juste faire leur vie sur le pilote automatique. Puis ouais. C'est encore pire depuis le COVID puis le confinement. Le monde sont comme... se sont tellement fait pétrir de peur. Écoute, tu regardes les nouvelles de nos jours, là, Yann, c'est épouvantable. Là, c'est juste, là, c'est de la guerre, c'est de la maladie, c'est de la récession. Le monde ne sait plus où se mettre, ils sont découragés.
Ouais.
Puis moi, ce que j'explique, c'est que si tu veux transcender tout ça, là, tu veux passer à la prochaine étape, ça commence de l'intérieur. Ça commence par un voyage intérieur, d'accueillir, d'accepter, puis ensuite de transformer tout ça étape par étape. C'est ça que j'essaie d'enseigner, puis je l'enseigne à travers aussi mon récit à moi de « Regarde, je suis un être humain, comme tout le monde, j'ai mis le genou à terre, puis j'en ai eu des déboires, puis j'en ai frappé des murs, mais l'important, c'est pas que tu mettes un genou à terre, c'est que tu te relèves. Si tu mets 2 genoux à terre, puis là, on te le compte de 10, ben c'est là où est le problème. Mais
c'est
si
ça. T'es,
puis, mets ton genou à terre, tu respires, tu te relèves.
J'ai deux anecdotes, David. Puis je veux pas faire de crying show avec ces anecdotes-là. Là. Je veux que les gens réalisent bien des affaires en jasant avec David Bernard. Ma conjointe est infirmière clinicienne pendant plusieurs années. Elle a accompagné des gens qui étaient en fin de vie. Puis elle, son bilan, c'est que les gens en fin de vie, surtout ceux qui ont pas eu une vie facile, décident qu'ils veulent vivre alors qu'ils sont sur le point de mourir. J'aurais dû dire à mon fils que je l'aimais. J'aurais dû dire à ma fille que je l'aimais. Moi, de mon côté, pendant la pandémie, David, j'ai rencontré un homme de 84 ans à Thetford Mines, au Château Bellevue, parce que pendant la pandémie, moi, je pouvais plus faire de la radio de soir. Les annonceurs, ils voulaient pas annoncer le soir pendant la pandémie. Tout était fermé. Fait que je me suis dit, je vais aller faire du bénévolat. Puis je suis tombé agent de sécurité au Château Bellevue à Thetford Mines. Je rencontre un homme de 84 ans. qui revenait de chez le médecin. Puis moi, j'aimais bien ça, jaser avec le monde. T'sais. Je travaillais le soir puis la nuit, mais quand j'avais la chance de jaser avec le monde, je le jasais. Le monsieur revient au foyer et il dit ouais, il dit, là, je viens de voir mon médecin. Là. Ah, je dis, ça a bien été. Là. Je vois que vous avez de l'air à bien aller. Le monsieur, 6'2, 6'3, drette comme un chêne, 84 ans. Il dit, ouais, il me dit que je n'avais encore pour 10 ans à vivre. Je l'ai envoyé chier. Là, moi, je me suis dit, ça, c'est mon genre de body. Donc, j'ai commencé à jaser un peu avec lui. Puis, il me racontait que sa femme était... lui, c'est un mécanicien. Il me racontait que sa femme était décédée alors que lui avait une cinquantaine d'années. Il avait jamais refait de sa vie. Puis parce qu'il pensait encore à sa conjointe. Mmh. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, mais il voyageait plus parce que sa conjointe n'était plus là. Il avait plus le goût d'aller jouer aux cartes avec ses chums parce que sa conjointe n'était plus là. Puis à 84 ans, son médecin vient d'y annoncer qu'il reste encore 10 ans à vivre, puis il trouvait ça long. Puis je me disais, mais à quel point, tu sais, t'es dans les dernières années de ta vie, à quel point tu pourrais changer du tout au tout, puis... de faire des choses que tu n'avais jamais osé faire parce que ta conjointe n'était pas là. Voyager à travers le monde. Ouais. Tu as 84 ans, tu es encore top shape. Tu es drette comme un chêne. Pourquoi ne pas le faire? Je ne sais pas honnêtement si par la suite, il a décidé de se réveiller. Là. Ça faisait quand même plusieurs années qu'il était un zombie, comme tu le dis. Mais lui, c'est un épisode de sa vie où il a perdu sa conjointe. Puis pouf, les années suivantes, il faisait juste respirer, manger, boire, dormir. C'est tout.
C'est intéressant ce que tu parles, parce que ça me fait penser à une infirmière clinicienne qui faisait exactement la même chose que ta blonde, qui s'appelle Bronnie Ware. Puis elle a commencé un blog, puis son blog était tellement populaire qu'elle en a écrit un livre qui s'appelle Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Puis elle a ressassé pendant des années, elle parlait avec les gens juste avant qu'ils décèdent, puis elle leur demandait c'est quoi tes plus grands regrets. Puis c'est quasiment tout le temps les mêmes qui reviennent, hein? Dont entre autres, c'est d'avoir consacré trop de temps à leur travail. C'est dans les top 5, là, celui-là, de ne pas avoir plus exprimé nos sentiments, de ne pas assez parler, communiquer, de pas rester en contact avec les amis, puis de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. T'sais, comme ton bonhomme là, de 84, là, t'sais, lui, il s'était enlevé, il n'a pas fait son deuil, puis il a perdu ce goût à la vie. Puis il s'est dit, il a commencé à survivre plutôt que vivre. C'est tellement triste et tragique, mais en même temps, le plus beau cadeau qu'on a comme être humain, c'est le libre arbitre. Alors, si t'en fais ce que tu veux de ta vie, hein, mais au final, il faut que tu assumes tes choix, puis que tu les regardes, tu te dises, ben ça, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais. T'as peut-être pas choisi que ta femme décède, ça, c'est sûr et certain. Mais ensuite de ça, une fois que le deuil est entamé, ben c'est toi qui décides ce que tu vas faire du reste de ta vie. Puis tu peux rester endeuillé pour le restant de tes jours par loyauté ou par fidélité ou par peu importe. Mais tu peux aussi... Tu sais, moi, c'est drôle parce que je pense à ça et je me demande qu'est-ce que sa femme aurait voulu pour lui, tu sais.
Elle aurait certainement
probablement
voulu
pas qu'il reste malheureux tout seul chez eux à s'éteindre puis à faner, tu sais.
Exact. Exact. Tu sais, puis je sais pas pourquoi l'humain est comme ça. Peut-être que t'as certaines réponses à me donner, homme comme femme. Tu sais, on est comme sur le... Tu sais, il faut être sur le point de mourir, d'avoir un maudit cancer pour se dire « Hey, j'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. Ah, ben j'ai eu le cancer, là, je suis en rémission. Là, ma vie a changé, je veux faire plein de choses. » Pourquoi on a besoin de passer par l'étape de... Puis comme toi, t'es passé à 20 ans, « Hey, je pense que je survivrai pas au prochain jour. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Pourquoi ça prend ça? Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui... T'sais, je sais pas, moi, à l'école, un David Bernard qui vient nous shaker à patate en disant « Hey, gang, ce serait le temps de commencer à vivre, là. »
Ouais. Ben, c'est un peu pour ça que je fais mon travail depuis 20 ans puis que je me fais embaucher un peu partout en entreprise puis dans des organisations puis dans des écoles pour partager certains messages qui ressemblent à ça. Puis tu sais, il n'y a pas de réponse facile parce que c'est infiniment complexe, parce que l'être humain, c'est du cas par cas. Puis même si on est tous similaires, pour ne pas dire identiques, on est tous complètement uniques dans notre manière de vivre et de percevoir la vie. Mais je te dirais que c'est un dénominateur commun que je remarque beaucoup. Pour répondre à ta question, c'est ce qu'on appelle la loi de la familiarité. La loi de la familiarité, ce que c'est que c'est une loi non écrite qui stipule que tout ce dont tu es à proximité pendant un certain laps de temps, que ce soit des journées, des semaines ou des mois, inévitablement, que ce soit un bien matériel ou une relation, presque inévitablement, pour la plupart des êtres humains, on finit par le prendre pour acquis. Ça fait partie des meubles. Tu sais, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu rêves d'un char, tu l'achètes, puis 3 mois plus tard, tu t'en rends même plus compte. Tu rêves de la maison de tes rêves, puis même t'as fait bâtir puis tout ça, puis 1 an et demi plus tard, tu ne l'apprécies même plus, c'est rendu une normalité. Tu rêves d'avoir un chum ou une blonde, t'en dors pas la nuit, tu pries le petit Jésus, bébé noir, de dire « envoyez-moi l'amour dans ma vie », puis on est, tu le rencontres, puis après 2 ans, ça fait tellement partie des meubles, tu t'en rends même plus compte, tu ne l'apprécies plus, t'arrêtes de faire des petites attentions, t'arrêtes d'en prendre soin. Pourquoi? Parce que tu t'y es habitué. Puis c'est la raison pour laquelle, quand tu te retrouves face à une crise de vie, là, tout d'un coup, tu fais « wow, j'avais quelque chose de précieux ou j'ai quelque chose de précieux entre les mains », comme par exemple, le plus commun, c'est la santé. La plupart des gens prennent leur santé pour acquis à un niveau spectaculaire, comme on prend notre santé pour acquis jusqu'au jour où on la perd. Puis là, quand tu la perds, tu réalises que si tu n'as pas la santé, tu n'as plus rien parce que tu ne peux pas fonctionner dans la vie, ta machine ne marche plus. Fait que là, tu tombes sur la panique, puis là, tu te dis, là, je vais changer mes habitudes de vie, puis mon hygiène de vie, puis je vais mieux manger, puis je vais m'entraîner, puis je vais moins boire, puis je ne fumerai pas, puis patati tatata.
Si vous me laissez en vie, je vous promets que je vais faire attention.
C'est ça, exactement. Puis ça, souvent, ben, c'est des promesses qui ressemblent à des résolutions du nouvel an. Ça dure pendant quelques semaines. Puis là, encore une fois, ben, la loi de la familiarité rentre. Embarque. Puis là, bah, tu sors, tu sais, hein, faut bien vivre une fois. Faut bien vivre, puis on vit juste une fois. Puis c'est beau aussi. Je pense que pour moi, il y a l'aspect d'équilibre dont je parle beaucoup justement dans mon dernier livre là, qui vient de sortir. Je parle beaucoup de comment arriver à l'équilibre puis faire la paix avec l'idée de zigzaguer. Tu sais, tu as un objectif, comme par exemple être en santé, mais parfois, ça va être correct de chirer à gauche puis de chirer à droite. Tu zigues, tu zagues, tu zigues, tu zagues. Fait qu'un soir, tu l'échappes, tu manges beaucoup. Un autre soir, tu l'échappes, tu bois un peu trop. OK, c'est correct, mais tu reviens au centre puis tu perds pas de vue ton objectif, ta mission, ton intention qui est la santé, tu sais. Fait que ça, c'est un peu ça pour moi, mais pour tous les aspects de ma vie, toutes les sphères de ma vie, tant pour la finance que pour la famille, que pour la spiritualité, ça m'arrive des fois d'avoir des chires à gauche et à droite, des zigzags, sauf que la plupart du temps, je reviens vers le centre et c'est là où je retrouve le plus de joie, de paix, de bonheur, dans la voie du juste milieu, même si parfois ça peut sembler pas trop sexy puis plate, c'est là où le meilleur de la vie tant qu'à moi se trouve. Parce que dans les extrêmes, tu te retrouves dans un extrême de grande joie ou de grande excitation, c'est vraiment le fun sur le coup, mais inévitablement, ça t'amène à un... Tu vas crasher après, tu vas avoir un down. Fait que là, tu retournes dans l'autre extrême. Fait que c'est toujours un balancier des extrêmes d'un bord puis de l'autre. Tandis que quand t'es plus vers le centre, la vie est plus smooth. C'est plus facile. C'est plus... Puis tu sais, je l'enseigne, là, j'ai 47 ans, puis je suis moi-même un étudiant de ça à tous les jours de ma vie. Puis je l'apprends, puis je le travaille, puis je l'intègre. C'est un peu comme le gym. Tu sais, tu te dis pas, tu vas t'entraîner une fois, bon, ça y est. Je t'en forme pour le restant de mes jours. C'est pas de même que ça marche. Ouais. C'est une pratique quotidienne, tu sais, qui vient avec justement nos routines, nos habitudes, notre hygiène, notre pratique de vie,
exact.
Notre mentalité, nos pensées. Il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte là-dedans.
David Bernard, on va devoir faire une pause d'à peu près 2 minutes. J'ai une dernière question pour toi après la pause. On va continuer à placoter, bien entendu, dans la deuxième partie de l'émission. Là. Mais yes. La programmation neuro-linguistique, toi, tu es coach certifié en programmation neuro-linguistique.
Ouais.
On en entend tout le temps parler de PNL. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi dans ta vie? Puis les gens qui peuvent prendre des cours en programmation neurolinguistique, ils s'attendent à quoi quand ils prennent ces cours-là?
Oh, la question à 100$. Écoute, si je te donne la réponse la plus simple possible, d'abord et avant tout, la programmation neurolinguistique, ce sont des thérapies. Bref, des stratégies, une combinaison du savoir-faire et du savoir-être pour favoriser l'accompagnement des gens. Okay. S'accompagner soi-même puis ensuite les autres. Bon, je te le réponds encore plus que ça. C'est une base de la psychologie qui est basée sur la communication et des modèles de transformation, des techniques, des interventions pour aider les gens à se libérer de passer d'un point A à un point B finalement. Fait que se libérer de leur peur, de leur phobie, de leur contraction, de leurs blessures du passé, de leurs croyances limitantes, de les faire passer de où ils sont à où ils veulent aller. Fait que La base de la PNL, c'est la relation. Comment entrer en relation avec un être humain? Puis tu réalises rapidement, quand tu étudies ça, qu'il existe 2 formes de réalité. Il existe la réalité ultime, qui est celle de tous les êtres humains, qui est la même, qui ne change pas, qui est la vérité pure. Il existe la réalité imaginaire. Chaque être humain, nous avons une réalité imaginaire qui est unique. En ce sens que... on observe la réalité à travers nos 5 sens, à travers la vue, à travers l'audition, le goût, l'odorat, le ressenti. Alors, on perçoit la vie à travers nos filtres et ils sont à ce moment-là distorsionnés. Il y a des omissions, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que la réalité que l'on perçoit et la réalité réelle, c'est deux choses complètement différentes. Alors, quand tu parles avec les êtres humains, ben, tu réalises que chaque être humain a une carte du monde, un modèle du monde, une perception de la réalité qui lui est propre et unique. Alors, comme coach en PNL, une des premières affaires que tu apprends à faire, c'est d'entrer en relation avec les gens en rentrant dans leur modèle du monde pour vraiment bien les comprendre. Et à partir de là, ben, tu peux les aider plus efficacement à atteindre leurs objectifs, leur mission, leur intention. Et là, pour chaque personne, c'est différent. Puis tu sais, la PNL, ça va toucher. Comme moi, j'ai fait je me suis spécialisé en hypnose, l'hypnose ericksonienne. Je suis allé là-dedans. J'ai fait du coaching d'affaires beaucoup, du coaching de vie. Tout ça pour amener les gens, finalement, dans un processus de transformation. Grosso modo, là, je peux en parler très longtemps. Là, j'ai fait des années à étudier ça. Mais grosso modo, c'est une forme de la psychologie qui est souvent axée vers des thérapies un peu plus brèves. Tu sais, quelqu'un qui va dire je vais aller voir un psychologue, ça se peut que son processus soit plus long parce que, puis là, je sais que je vais peut-être me faire lancer des roches, mais bien souvent, je vois qu'il y a de la dépendance thérapeutique. Ce qui veut dire que le client revient, puis tu sais, j'en vois des fois, ils sont fiers de dire moi, je vois mon psy une fois par deux semaines, une fois par semaine, une fois par mois. Puis là, genre, oui, ouais, c'est intéressant. OK, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais tabarnouche, il n'est pas bon, ton psy. il collecte le chèque. Là, parce que là, tu t'es trouvé un ami avec qui tu peux verbaliser ou avec qui tu peux ventiler ce que tu vis. Mais ça, c'est pas une transformation. Ça, c'est une ventilation. C'est pas la même chose. Tandis que quand je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, je me fais coacher ou je vais voir un psy, mais tu sais, j'ai fait 5 sessions, puis mon défi était transformé, réglé, je m'étais libéré, j'avais « Ah, merveilleux! » Mais là, des fois, tu te dis « Ben, il y a d'autres choses à régler, tu sais. » Fait qu'il y a des gens qui se font coacher pendant des années, mais ils sont dans une évolution où ils cochent des cases, ils règlent des affaires, merveilleux. Mais si c'est juste pour aller parler puis ventiler, ben là, à ce moment-là, c'est une affreuse perte de temps et d'argent. Encore là, je suis un peu intransigeant, là, parce que ça peut être juste « Oui, c'est vrai, ça te fait du bien. » Et si t'as personne à qui ventiler dans la vie, tu peux bien aller ventiler à qui tu voudras, puis tu peux même payer pour ça, c'est bien correct. Mais en mon sens, souvent, quand tu fais une démarche avec une psychologique, on va dire comme ça, la démarche est souvent un petit peu plus longue. Tandis que quand tu vas voir un coach, par exemple en PNL, lui va d'abord essayer d'entrer le plus rapidement possible en relation avec toi pour qu'il y ait de la confiance puis qu'il te comprenne au maximum. Et là, de là, il va bien identifier où tu es, donc dans l'accueil, puis il va t'aider à progressivement aller où tu veux en le comprenant clairement aussi. Puis qu'est-ce qui entrave le processus qui t'empêche d'y aller? Alors là, à partir de ce moment-là, en fonction de la compétence et des capacités, des habiletés du coach, de la relation qu'il y a entre le coaché et le coach, ben ça peut être une session, deux sessions, trois sessions, cinq sessions, 10. Ça dépend toujours de l'importance de ce qui a à être transformé puis à être changé.
OK. On va faire une courte pause, David, si tu le veux bien. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec David Bernard. DavidBernard.ca pour plus de détails. Il est conférencier, auteur, chroniqueur, coach. Il fait plein de choses. Mais ma grand-mère vous dirait que c'est le top modèle au Québec. Encore à ce jour, elle n'a pas oublié la valise 26 du banquier. On fait une courte pause. On revient.
Marceau, le soir. Le soir. La semaine, on jase de ce qui se passe chez toi. La fin de semaine, on laisse la musique parler.
Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec David Bernard. DavidBernard.ca, conférencier, auteur de plusieurs livres. Son dernier bébé, si on peut le dire ainsi, c'est son sixième livre, « Aime-toi et la vie suivra », qui est... C'est disponible actuellement, David, dans toutes les bonnes librairies.
Ben oui, tout récemment, même pas une semaine après la sortie, on s'est retrouvé en rupture de stock. On était dans le top 10 des meilleurs vendeurs 2-3 semaines d'affilée. Puis là, ben voilà, on est retombé en rupture de stock. Mais là, on est tombé en réimpression roche. Alors, il est disponible partout en librairie, en commande. Tu peux le retrouver partout.
Ben, c'est des beaux problèmes. T'as plein de best-sellers.
Ben oui, j'avoue que le sixième, je pense que ça a été le plus rapide best-seller. Ça s'est fait quasiment instantané.
Que représente l'amour pour toi? Parce que je regarde tes livres, je regarde le travail que tu as fait dans les dernières années. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens de l'amour sex-ship. Là, ça avait comme pas possible, le livre L'amour sex-ship. L'amour pour toi, c'est quoi? T'sais, pourquoi t'es tombé là-dedans? C'était-tu un naturel où tu t'es dit « Ah, ben il y a quelque chose à exploiter là? »
C'est drôle parce que je n'y ai jamais vraiment pensé. C'est arrivé presque par hasard. Et en même temps, je réalise du haut de mes très jeunes 46, bientôt 47, que c'est un peu l'œuvre de ma vie de partager ce message-là. T'sais, on a commencé l'entrevue, tu me disais, ben, c'est qui David Bernard dans le fond? Ben, t'sais, David Bernard, oui, c'est un animateur télé, oui, c'est un conférencier, oui, c'est un coach, oui, c'est un auteur, c'est un papa, c'est un époux. Mais je te dirais que sous le parapluie de tous ces chapeaux, celui que je porte le plus, je te dirais que c'est un messager d'espoir, de lumière et d'amour. Tu sais, c'est pas, quand même pas rien. J'ai pris conscience de ça récemment. J'ai écrit 6 livres et il y en a 4 qui ont le mot « amour » dans le titre, tu sais, sur le dessus du livre. Fait que je dirais que pour moi, c'est une grande passion, mais aussi c'est comme une inclinaison naturelle, un élan naturel d'aller vers l'amour parce qu'en mon sens, c'est un des messages les plus importants, les plus grands maîtres sur la planète. En ont parlé de long en large, puis je pense que l'amour guérit, l'amour élève. Je ne parle pas nécessairement de l'amour romantique, bien que c'est ce que j'ai abordé dans mes trois premiers livres, qui étaient le premier, tu parles de l'amour sexuel, justement, c'est un livre sur la communication consciente dans le couple, pour que les gars et les filles se comprennent mieux, puis qu'ils bâtissent des ponts, puis plutôt que se lancer des roches, ben ils bâtissent des ponts avec, puis qu'ils se comprennent, puis qu'ils connectent, puis qu'ils s'élèvent ensemble. Ensuite de ça, j'ai écrit « Prêt pour l'amour », tome 1 et tome 2, qui sont des livres qui s'adressent spécifiquement aux célibataires pour les aider à attirer l'amour dans leur vie. Mais pas juste une rencontre d'un soir, pas juste une personne pour remplir le vide. Vraiment un partenaire qui correspond à leur essence, qui va les aider à s'élever. D'ailleurs, de ces deux livres-là, a été créé un programme, une plateforme en ligne qui s'appelle « Prêt pour l'amour ». S'il y en a qui veulent savoir d'ailleurs un petit peu plus là-dessus, programmeprêtpourlamour.com, c'est à date. On est rendu à 4 cohortes. On a touché 5 700 personnes en 4 ans. J'ai coproduit ça avec Chantal Lacroix, mon amie. Puis, écoute, c'est une histoire folle là, de 5 étoiles sur 5 de satisfaction pour 92 % du monde. 1800 témoignages écrits avec des photos de monde en relation. C'est hallucinant. Mais c'est un processus qui n'est pas tant bonbon en ce sens que c'est... On parle de 11 semaines où j'amène les gens à cheminer de l'intérieur vers l'extérieur. Fait qu'on mise d'abord sur l'être, à comprendre où t'es, à guérir de tes blessures du passé, à nettoyer ton jardin amoureux, toutes tes croyances, les affaires que tu penses à propos des gars, à propos des filles, par rapport à la vie. On fait le grand ménage là-dedans. Puis ensuite de ça, on entame un processus où on est plus dans le faire, puis on est plus proactif. Alors donc, bref, ces trois livres-là sur les relations et sur l'amour relationnel ont été hyper marquants pour moi. Puis ça faisait 10 ans que je portais en dedans de moi, je rêvais d'écrire mon petit dernier qui est « Aime-toi et la vie suivra », en ce sens que j'ai tellement pogné le fond du baril, puis je suis ressorti de là après quelques années. Puis tu sais, aujourd'hui, je le dis pas pour faire mon petit vantard, mais parce que j'en suis extrêmement fier. Tu sais, je suis passé, comme je le disais avant la pause, à 2 mois de faire faillite, complètement dépendant, consommateur quotidien, séparé, mon identité brisée, ma carrière en miettes, à avoir des idées extrêmement noires. À quelques années plus tard, avoir épousé une femme qui est absolument extraordinaire, avec qui je partage ma vie depuis 7 ans, avoir une relation extraordinaire avec ma fille, avoir relancé ma carrière, avoir atteint une stabilité financière, avoir être en rétablissement depuis plus de 3 ans, déjà plusieurs années. Fait que tu sais, tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Fait que pour moi, puis ça part d'une chose, l'amour qu'on porte à soi-même. Parce que si tu t'aimes pas, bien souvent, je le vois tellement dans la société avec du monde, tu sais, proche de moi, puis des fois pas si proche que ça, mais la plupart des gens sont dans un élan d'auto-sabotage puis d'auto-destruction très, très fort dans leurs habitudes de vie, dans leur manière de faire. Fait qu'ils s'en rendent pas compte. Un peu comme ton monsieur que tu parlais avant la pause de 84 ans, il s'en rend pas compte, mais il est en train de s'auto-détruire, de s'auto-saboter. Sa vie est fade, elle est grise, puis il se laisse faner là-dedans. Parce que, comme je dirais en anglais, « he doesn't know better », il sait pas quoi faire d'autre. Il est prisonnier de sa vie. Alors, ce livre-là, c'est un livre qui se voulait... Un peu un résumé de ma dernière décennie de cheminement, puis de ce que j'ai compris là-dedans, puis je voulais l'enseigner, le partager aux gens pour les accompagner dans un processus de transformation. Fait que j'ai mis le meilleur de toutes de mes histoires, puis de mes bas-fonds. Puis tu sais, c'est très croustillant, parce que je rentre dans les détails de à quel point il faisait noir, puis à quel point ça allait pas bien. Fait que j'épargne aucun détail, y compris comme consommateur, comme tout le mon ego, comment j'étais. J'ai tout mis ça sur la table pour aider aux gens à voir justement de la lumière là-dedans, puis aussi d'approfondir leur relation qu'ils ont avec eux-mêmes d'amour. Parce que quand tu t'aimes, réellement et sincèrement, là, c'est comme si tout d'un coup, ça permet plein d'affaires. Ça permet tout d'un coup de vivre des transformations, de mettre en place, d'agir différemment, d'avoir des comportements différents. Et c'est souvent la base, pour ne pas dire tout le temps, la base la plus importante pour vraiment avoir vivre un grand bonheur, puis aussi atteindre une paix d'esprit dans la vie, ça passe par le fait de s'aimer, de se connaître et de s'aimer.
C'est le fun de jaser, David. Puis est-ce que le fait de devenir père, ça a changé un peu ta vie? Eva est rendue à quel âge? 10 ans à peu près?
Exactement, c'est en plein ça. Il y en avait 10 ans.
Qu'on se parlait.
Les deux plus grands moments marquants de ma vie, il y a la naissance de ma fille, le 29 décembre 2013. Ouais. Et le deuxième, c'est mon mariage avec ma douce épouse Anne-Marie. Parce qu'on a quand même décidé de se marier, tu sais, en 2021, là, c'est quand on s'est marié, c'est plus trop commun de nos jours, c'est pas tant à la mode, là, c'est pas la saveur du moment de te marier, tu sais, puis nous autres, on a décidé de le faire pour plein de raisons, mais ces deux moments-là de ma vie sont les plus marquants. Probablement, ça va jouer sur repeat le jour où mes yeux vont se fermer puis je vais faire mon dernier souffle.
Ça, c'est
sûr que je vais les écouter en repeat, ces deux moments-là.
Hey, mais tu me fais penser. Ça devait dire qu'on se parlait la fin de semaine en 2014, peut-être. Parce que il me semble qu'Eva est en vie. Puis je me souviens qu'un samedi ou un dimanche matin, tu voulais pas faire de bruit. On avait prévu se parler. Je me souviens pas de quoi on parlait. On placotait le samedi puis le dimanche matin. J'étais à Choix dans le temps Radio X à Québec. Puis t'as dit, là, je sais pas, là, je suis à poil, j'étais avec mon téléphone cellulaire. Écoute, j'étais allé mettre de l'essence après l'émission. Puis la fille du dépanneur dit, là, tu parlais avec le gars du banquier, là. Étais-tu vraiment à poil pendant qu'il faisait sa chronique avec vous autres? c'est ce qu'il m'a dit.
On le saura jamais.
Hey, c'est toujours un plaisir de jaser, David. Pour les gens qui veulent continuer de te suivre, on peut les envoyer sur ton site web, davidbernard.ca. Ouais. Tes livres sont en vente dans toutes les bonnes librairies.
Oui, puis même que j'ai envie de faire un cadeau aux auditeurs. C'est no bullshit, c'est la première fois que je le fais, mais j'ai envie de faire un cadeau aux auditeurs. Ça m'arrive parfois en entreprise, quand on m'embauche certains clients, je leur donne accès à ça. Puis je veux faire un cadeau à tes auditeurs, puis c'est vraiment, vraiment de la valeur, là, un beau cadeau. Tous les gens qui nous écoutent, si tu as envie d'avoir des ressources supplémentaires, de l'inspiration, quoi que ce soit, va sur davidbernard.ca, mais attention, barre oblique, et là, tu tapes le mot transformation. Donc, davidbernard.ca, barre oblique, transformation. Ça va t'amener sur une page où tu manques ton nom, tu cliques sur un lien, et là, tu vas avoir accès, je te donne l'introduction et les trois premiers chapitres de mes 5 livres. Je te donne également une piste audio de 20 minutes mixée studio, top qualité de méditation guidée, plus une vidéo que j'enseigne une technique qui était une des plus puissantes que moi j'ai appris en PNL, qui est la présence amplifiée. C'est une vidéo de 20 minutes, là. J'enseigne littéralement une formation. Je donne tout ça. Fait que ceux qui ça les inspire, ils m'entendent, là, ils se disent, hey, ça, c'est hot, ça me fait triper. davidbernard.ca/transformation. Puis sinon, mon dernier livre, Aime-toi et la vie suivra, est disponible partout, puis même en commande sur mon livre, sur la boutique de mon site Internet. Puis sinon, ceux qui ont entendu tantôt que j'étais sur les médias sociaux, là, peuvent me retrouver bien facilement Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Je suis un peu partout.
David Bernard, fais-moi une promesse, quand tu seras de passage à Québec là, pendant les jours de semaine, viens faire un tour en studio dans Marceau le midi ou encore dans Marceau le soir. Tu es toujours le bienvenu, puis on trouvera certainement quelque chose pour placoter. Je fais juste te dire un mot, puis tu pars pendant une demi-heure. Fait que c'est assez facile de t'avoir en entrevue.
Si tu me réinvites, je te garantis que je vais prendre ton invitation très au sérieux, puis tu vas avoir de mes nouvelles.
Ouais, t'as pas besoin d'invitation. Quand tu vas passer dans le secteur Le Bourgneuf à Québec, là, envoie-moi un petit coucou, puis tu viens en studio n'importe quand. On parlera d'actualité, ça te tente, ou on parlera de trucs. Est-ce que tu vas être à la télé dans les prochains jours, prochaines semaines, cet été?
Rien de télé. En fait, là, les gros projets sur lesquels je suis en train de plancher en ce moment, c'est comme je t'ai parlé de mon programme sur la plateforme en ligne de programmeprêtpourlamour.com. Là, on est en train de créer quelque chose qui va sortir au mois de mai, qui est un programme qui va être directement en lien avec le livre Aime-toi et la vie suivra. Je réalise que les gens aime énormément ça, de la formation en ligne, parce que c'est accessible, c'est facile, tu peux le faire de chez vous. Alors, on est en train de préparer un programme qui il va durer 11 semaines, qui va s'appeler Transformation, dans lequel on va accompagner les gens dans leur processus de chenille à papillon avec des vidéos qui vont être hebdomadaires, des PDF, de la formation, des pistes audio, toutes sortes d'affaires vraiment cool. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, ben vous avez juste à aller vous inscrire à mon infolettre là, en passant par davidbernard.ca ou me suivre sur mes médias sociaux. Je vais l'annoncer, ça s'en vient pour le mois de mai. On va lancer ça en grande pompe. Fait que ça, c'est ce qui me tient pas mal occupé parce que je suis en enregistrement et en studio pour ça. Puis sinon, ben j'ai mon agenda de conférences qui, depuis 2 ans, là, c'est hallucinant comment les conférences corporatives. Je donne même pas de grand public parce que je suis trop occupé avec les entreprises. Je me fais solliciter énormément avec ça. Alors, je suis pas mal dans ce spin-là là, ces derniers temps.
Passe donc un beau week-end, puis on se rejoint quand tu veux, mon ami.
Merci, Yann. Je te remercie.
Merci. Salut.
Bon week-end.
Salut. Bye-bye. Nous autres, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de Boulevard et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sans faute pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye-bye.
Marceau le soir. Joueur de hockey.